Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Sylvie Vauclair, une parfaite inconnue pour certains, une voix familière pour les auditeurs de cette radio, un grand nom pour ceux qui sont passionnés d'astrophysique. Sylvie Vauclair est, dit-on, la Hubert Reeves au féminin, c'est dire. Une astrophysicienne de renommée internationale, doublée d'une pédagogue hors pair qui a la passion de parler de l'univers au grand public et par là même de nous faire rêver. Mais Sylvie Vauclair est aussi une femme, une terrienne, comme vous et moi, avec ses questions, ses doutes, ses peurs, même peut-être une femme en quête d'absolu, que je vous propose de rencontrer ce matin. Sylvie Vauclair, la tête dans les étoiles, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin, le thème ou la rencontre avec vous, Sylvie Vauclair. Vous êtes astrophysicienne, chroniqueuse à cette antenne, on a de la chance, et vous êtes l'auteur de multiples ouvrages, dont le dernier, dont on a parlé pas mal à cette antenne, en tout cas pas moi, mais certains de mes collègues, La Nouvelle Symphonie des Étoiles, L'Humanité face au Cosmos, paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Merci de faire à nouveau un détour par la radio. Alors, les petits secrets, on va dire, le off de l'émission, c'est que vous avez le code, tellement vous êtes habitué de la radio. Donc, vous pouvez vous rentrer, on ne vous remarque presque plus maintenant. En tout cas, vous rentrez en toute discrétion. Vous avez fait des émissions récemment, entre autres avec Monique Fauché, sur votre dernier livre. Jean-Pierre Allot, en son temps, vous avez reçu à de nombreuses reprises. Je crois qu'aussi Isabelle Honnel vous a reçu dans la matinale. Là, je vous proposais un format un peu décalé, comme on fait de temps en temps à l'occasion des émissions du vendredi, où on fait des portraits de personnalités du Sud-Ouest. Alors, vous en êtes une. À chaque fois, on commence par le début, Sylvie Vauclair. Et alors là, j'ai pas trouvé grand-chose. Vous êtes née le 7 mars 1946 à Saint-Germain-en-Laye.
C'est discret, ça, de dire mon âge.
Mais la question derrière ça, c'est plutôt que donner de votre âge et de que les auditeurs fassent leurs calculs, c'est de savoir un peu d'où vous venez. Quelle est un peu votre origine, votre biotope familial, comme je dis à chaque fois?
Oui, j'étais d'une famille un petit peu particulière parce que d'abord, mon père avait plus de 20 ans de plus que ma mère. Et je suis né quand ma mère avait déjà 40 ans. Donc, vous imaginez, je suis né d'un père très âgé. Donc ça marque quand même. Hein. C'est une chose dont je ne parle pas en général. Mais puisque vous me posez la question, là, c'est quand même assez important. Aussi, bah, puisque je peux dire des choses que je ne dis pas souvent non plus, c'est que eh bien, la famille, pour des raisons diverses, la famille de mes parents, les familles de ma mère d'un côté, de mon père de l'autre côté, n'étaient pas d'accord avec ce mariage. Donc en fait, mes parents se sont mariés à deux avec les deux témoins et j'ai eu quand même toute mon enfance avec l'idée que j'avais beaucoup de cousins partout, mais que je ne connais pas du tout. Et j'étais très seule, parce que j'étais fille unique, donc j'étais très seule. Ma mère est institutrice, et elle avait des idées un peu... Elle était très, très, très ouverte, mais en même temps des idées un peu, comment dire, restreintes sur certains plans. Et elle disait que je ne pouvais pas m'ennuyer, puisque j'habitais dans une école. En fait, on habitait. Ma mère était directrice de cette petite école, et on habitait dans cette école. Et ma mère n'a jamais compris que quand on habite dans une école, que dans la journée on a tous les enfants et quand ils s'en vont, ben c'est bien triste. On a beau habiter dans l'école, c'est pas pour ça qu'on se sent pas tout seul. Donc voilà un petit peu l'ambiance de mon enfance, mais il n'y avait pas que ça quand même. Il y avait des aspects très heureux.
Dans votre famille, la couleur philosophique, religieuse, quelle était un peu l'ambiance sur ce sujet?
Alors, écoutez, je vais peut-être oser dire quelque chose que je n'ai jamais dit.
Alors, je ne vous pousse pas à la confidence dans cette émission. Hein. Vous nous partagez ce que vous voulez. Hein,
Eh bien, mon père, dans sa jeunesse, avait été prêtre. C'est quand même important, ça. Et ensuite, mais il avait assez vite... Il avait quitté... Donc, mon père était très, très âgé. Hein. Il avait 62 ans quand je suis né. Et donc, il a quitté après la guerre de 14, où il était ambulancier et où il a vu des choses horribles. Et là, il n'a pas pu continuer. Je ne sais pas exactement parce qu'il ne m'en avait jamais parlé. J'ai découvert ça par hasard. Mes parents ne me parlaient pas de leur histoire. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles la famille de ma mère ne voulait pas que ma mère épouse mon père.
Ça veut dire que Dieu n'était pas forcément un sujet dans votre famille
ou... Alors écoutez,
on parlait de convictions politiques.
Mon père n'en parlait jamais, sauf qu'à la fin de sa vie, il était redevenu, je pense, assez croyant. En tout cas, il avait peur de la mort et ça... manifestement, donc de prier, il disait des chapelets et tout ça, ça l'aidait à surmonter. Je ne sais pas quelle était sa foi profondément, mais ce que je sais et que mes parents m'avaient caché, en fait, je n'étais pas du tout dans la confidence de tout ça, je l'ai découvert par hasard, c'est que, évidemment, mes parents se sont mariés à la mairie, mais mon père avait toujours un ami prêtre, un très très proche ami prêtre, qui a obtenu à l'époque le pardon du pape, je ne sais pas comment on dit exactement, et mes parents se sont mariés à l'église alors que j'avais peut-être 10 ans, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'ils sont... Je l'ai appris plus tard. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu... J'en parle jamais de ça. Et vous voyez ce que c'est. Hein, là, du coup, j'en parle. Et c'est sûr que ça... Même si dans mon enfance, on n'en parlait jamais, c'est sûr que ça a quand même une influence. Alors, moi, j'ai été élevée dans l'église catholique, dans la foi catholique. J'allais au catéchisme.
On y reviendra peut-être plus tard si ça vous embête pas. Donc, vous grandissez, vous êtes fille unique. Vous étiez, je crois, dans quelques papiers que j'ai trouvés sur vous. Enfin, ils sont quand même relativement nombreux si on se prend la peine de bien chercher. C'est, je crois, votre mère un peu qui vous a un peu initié à l'amour du ciel et des étoiles.
Voilà, ma mère était absolument passionnée. Vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait un peu de philosophie chez moi. Alors, je dirais un petit peu par ma mère, mon père, pas du tout. Mais donc, elle s'intéressait au ciel, elle s'intéressait à beaucoup de choses. Elle s'intéressait au ciel surtout par rapport aux constellations, au nom des constellations et à la relation avec la mythologie grecque. Parce qu'il y a beaucoup de noms de constellations. Les constellations sont supposées être, en tout cas les constellations de l'hémisphère nord, supposées être des personnages de la mythologie grecque qui sont montés au ciel, qui ont été envoyés au ciel parce qu'ils avaient fait des choses, enfin il y a des histoires. Et ça l'intéressait, ces histoires de mythologie grecque et le ciel. Et donc elle emmenait des gens... voir les étoiles, elle leur racontait ça. Et puis moi, elle me faisait lever quand j'étais toute petite. Elle me faisait lever en plein milieu de la nuit pour aller voir une étoile qui se levait, Sirius, oui, puis d'autres aussi. Et c'est vrai que ça, c'est très frappant. Moi, je dis toujours que je pense que c'est très important de donner beaucoup d'ouverture comme ça aux enfants, même de moins de 5 ans. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que c'est important pour qu'ensuite ils puissent se choisir une voie dans la vie.
Alors vous, semble-t-il, vous avez choisi donc l'astrophysique, hein, c'est ça ? Donc vous êtes astrophysicienne, d'accord ? En tout cas, vous avez fait donc les études d'astrophysique. Excusez-moi, mais en fait c'est.
Alors c'est des études de.
On fait quoi pour arriver à l'astrophysique ?
D'abord, c'est des études scientifiques, évidemment, bac scientifique. Ensuite, soit aller dans une école. Vous savez, ces grandes écoles, mais maintenant, enfin, c'est difficile parce que la plupart des grandes écoles, c'est des écoles d'ingénieurs et qui ne conduisent pas à la recherche en astrophysique. Mais il y en a quelques-unes. Comme super-héros par exemple, ou aller à l'université, donc faire des études vraiment scientifiques, donc des études de maths et de physique. Et c'est seulement après qu'on...
Après,
prend...
c'est-à-dire au doctorat ou...
Alors oui, enfin non, pas le doctorat, au master, c'est le master. Donc ça s'appelle comme ça maintenant, dans mon temps ça ne s'appelait pas comme ça. Le master, c'est la quatrième année après le bac, et là on se spécialise. Et c'est important parce que pour faire de l'astrophysique, pour vraiment scientifiquement, enfin professionnellement, il faut avoir de très très bonnes connaissances en maths et en physique.
Alors donc vous avez fait donc deux thèses, on peut lire dans certaines de vos biographies, donc une avec Hubert Reeves, je vous ai un peu taquiné en introduction, mais je l'ai entendu, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai entendu.
C'est la première fois que je l'entends, moi.
Ah bon, d'accord. Et puis vous avez fait une thèse aussi avec un certain Avery Schatzman,
oui.
Pour ceux qui connaissent moins que Hubert Reeves, qui
eh bien,
est cet homme.
Avery Schatzman, en fait, dans le milieu d'astrophysique français, il est extrêmement connu parce que les gens l'appellent le père de l'astrophysique française. C'est quelqu'un qui était caché pendant la guerre parce qu'il était juif dans un observatoire perdu au fin fond de la campagne. Et il a commencé là vraiment à créer des groupes d'astrophysique. C'est-à-dire qu'avant lui, en France, on étudiait la position des étoiles. Je schématise. Hein, mais on n'étudiait pas vraiment comment les étoiles sont faites. C'est ça l'astrophysique. C'est la structure, l'évolution des étoiles, essayer de comprendre comment c'est fait, comment ça fonctionne. Et lui, il a vraiment lancé des groupes sur ce sujet à l'époque, donc il est très connu. Hubert Reeves, c'est différent. Hubert Reeves, il est arrivé du Canada, justement dans les années, je crois qu'il est arrivé en 1966. Et donc voilà, c'est différent. Hubert Reeves était, quand je l'ai connu, il n'était pas du tout connu, il n'avait pas de barbe, et il n'était pas connu du tout du public. C'est venu après, avec son premier livre. mais dans le milieu astrophysique, il était beaucoup moins connu que Ivry Schatzman.
Alors vous, semble-t-il, vous avez particulièrement étudié, en tout cas dans un premier temps, l'importance de la diffusion sélective des atomes dans les conditions stellaires et ses conséquences dans leur structure et leur évolution.
Ah, vous avez été chercher ça, oui. Effectivement ça.
Si vous pouviez nous expliquer quel a été votre premier grand domaine de recherche. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous avez un autre domaine de recherche depuis quelques temps.
Disons que j'ai quand même une constante dans toute ma carrière de recherche, mais une constante qui permet d'aller à droite à gauche et de faire des travaux un peu différents. Et cette constante, c'est, disons, l'évolution de la matière dans l'univers, sachant que la matière, vous savez, c'est fait à partir d'éléments, ce qu'on appelle les éléments chimiques. Donc, c'est l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'azote, l'oxygène, c'est ça, les éléments. Et ils ont été formés, certains au début de l'univers, d'autres dans les étoiles qui ont existé avant la Terre et le Soleil. Et c'est ça un petit peu ma constante. Et avec Hubert, j'avais un travail, alors évidemment c'est toujours un travail très pointu, un travail très pointu de comprendre la quantité d'hélium qu'il y avait dans une étoile donnée. Donc ça, c'était ma première thèse. Et ensuite, c'était une époque où beaucoup de gens faisaient deux thèses. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel pour moi. On avait ce qu'on appelait une thèse de troisième cycle, une thèse d'état. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, donc, Ivry Schatzman m'a dit « Mais j'ai une autre idée, moi, pour expliquer ce que tu as fait avec Hubert Reeves, qu'est-ce que tu en penses et tout. » Et ça, c'est lié au fait que dans une étoile, vous avez... C'est un peu... Vous m'emmenez là à raconter des choses peut-être un peu pointues,
mais... Je vous dirai quand
j'espère de manière compréhensible.
Ça a été quand même une grande partie de votre vie.
Une étoile, c'est une grosse boule de gaz. Le Soleil, c'est une grosse boule de gaz. Vous savez, c'est une étoile... comme les autres, une grosse boule de gaz qui a 700 000 km de rayon. Et il y a tous les éléments possibles là-dedans, tous les éléments qui nous constituent, ils sont dans le Soleil, depuis l'hydrogène jusqu'à l'uranium et tout ça. Et alors, les éléments, c'est du gaz, vous savez, et ça tient, tout ça, ça tient sous l'effet de son propre poids. Sauf que les éléments lourds, ils ont un poids plus gros, plus fort que les éléments légers, donc ils tombent. C'est ça la diffusion, c'est qu'au cours de l'existence d'une étoile, les éléments qui étaient là au début, ils bougent les uns par rapport aux autres à cause des effets de poids, de rayonnement et tout ça. Donc il faut étudier comment ça va, parce qu'on observe les étoiles maintenant. Et c'est important, si on veut comprendre comment tout ça évolue, c'est important de retourner, d'essayer de retrouver comment c'était au début et si ça a varié depuis le début, c'est-à-dire le moment de la formation de l'étoile.
Faites comme de l'archéologie des
étoiles.
Voilà,
c'est exactement
en fait.
Ça. Merci pour le bon mot. C'est de l'archéologie stellaire. Exactement.
Alors, on y reviendra. Parmi tout ce qu'on peut lire aussi à propos de votre vie, vous avez eu une carrière scientifique... assez frappante. Il y a même eu un colloque international organisé en votre honneur en 2013. J'ai même vu, je ne sais pas si c'est anecdotique pour vous, que vous avez participé à la découverte de la plus petite planète, c'est ça ?
Oui, l'étoile. Non, ce n'est pas totalement anecdotique pour moi. C'est quelque chose dont... je peux pas dire que je suis fier parce que j'ai l'impression d'y être pour pas grand-chose. Et je crois que c'est ça, les découvertes. C'est-à-dire que je travaillais sur autre chose au Chili, à faire des observations avec un de mes étudiants. On cherchait quelque chose. On cherchait à étudier une étoile. Et on a découvert par hasard qu'il y avait une planète. Ah ben, on savait qu'il y avait déjà trois planètes autour de cette étoile. Mais on a découvert par hasard une quatrième planète qui tourne très près de l'étoile. Mais c'est vraiment par hasard. Et donc... après, ça a été, il y a nos collègues suisses, ceux qui ont découvert la première exoplanète, qui sont allés voir aussi au Chili pour vérifier nos observations. Ça, il faut, parce que être sûr qu'on avait bien un bon signal que c'était bien ça, ils l'ont confirmé. C'est vrai qu'on a été à l'origine de la découverte de la première, ce qu'on appelle super-Terre. C'est-à-dire une planète solide qui a 14 fois la masse de la Terre. Maintenant, on en connaît énormément qui sont moins massives.
C'était ça la plus petite planète connue
à l'époque. Oui.
14 fois la Terre.
14 fois la Terre.
D'accord, mais planète, du coup, qu'est-ce qu'on met derrière ? Parce que des planètes, il y en a beaucoup, j'imagine, dans l'univers.
Ah non, mais des planètes autour d'une autre étoile que le...
D'accord.
C'est ça l'intérêt, c'est une exoplanète. Une planète autour d'une autre étoile que le Soleil.
L'étoile, en l'occurrence, s'appelle Muara.
Parce que... Et Ara, ça veut dire l'autel... en latin, l'hôtel AUTEL, comme l'hôtel d'église. Mais justement, depuis la première découverte de planètes autour d'une étoile qui était en 1995, on ne connaissait que des grosses planètes. On n'avait pu détecter que des grosses planètes comme Jupiter autour des étoiles. Et là, on avait réduit la masse. Puis maintenant, je vous dis, on connaît autour d'autres étoiles que le Soleil des planètes qui ont la masse de la Terre et même en dessous. Une question de technologie, hein. C'est une question de technologie qui avance, qui permet de faire des observations de plus en plus précises.
Vous avez donc beaucoup de prix et de distinctions. Je ne veux pas non plus trop donner l'impression de vous flatter, mais enfin, ça vous présente un petit peu quand même, ça vous pose, comme on dit. Donc, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, etc. Vous avez des engagements, par ailleurs, Sylvie Vauclair, on va dire associatifs ou autres, des choses qui vous tiennent à cœur, dans lesquelles vous vous êtes donné beaucoup. Hormis Radio Présence, j'entends.
Bah écoutez, j'ai eu pas mal d'événements dans ma vie et j'ai participé à pas mal d'associations. Je ne sais pas si vous parlez plus précisément là sur le plan scientifique. Donc
j'entends hors professionnel peut-être, parce que j'ai lu hors professionnel que vous étiez donc musicienne.
Oui.
Intéressée par les arts autant que par la science, voire même aussi par la philosophie. Mais quant à vos engagements peut-être associatifs, ça j'en ai pas trouvé. Alors peut-être que je me suis dit qu'il y avait des angles morts dans les biographies.
J'ai fait beaucoup de choses qui ont évolué. J'ai été à une époque. En recherche de... j'ai été... C'est pas vraiment une association, mais j'étais un petit peu... Ça peut vous intéresser, un petit peu à Thésée, par exemple, enfin, des choses comme ça. Et puis, j'ai des associations, beaucoup d'associations de culture scientifique et d'aller vers le public au niveau de la culture scientifique et donc et d'associations aussi reliées à art et sciences. Alors je pourrais vous en citer plusieurs. J'étais dans une association liée à une revue qui s'appelait Phréatique dans le passé, mais c'est pas forcément connu. Et là j'étais je suis membre de, par exemple sur Toulouse, de Sciences Animation, je suis aussi marraine de plusieurs associations
de vulgarisation scientifique.
Et des choses comme ça, voilà.
Et vous êtes l'auteur donc de nombreux livres. On peut citer La chanson du soleil, ça c'était en 2002. La Terre, l'espace et au-delà, c'était en 2009. Dialogue avec l'univers en 2015, c'était aussi chez Odile Jacob. Et là, vous venez de publier La nouvelle symphonie des étoiles, l'humanité face au cosmos, paru dans cette même maison d'édition de la collection Science. On va faire une première pause et on va parler un peu plus des étoiles. Chose probablement que vous avez dite et redite, mais en même temps, c'est ça. Si vous êtes passionné de vulgarisation, vous ne serez pas étonné par la simplicité de mes questions et de celles des auditeurs par la même occasion. Sylvie Vauclair, La tête dans les étoiles, c'est le thème donc de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi matin, émission portrait donc avec vous, Sylvie Vauclair, pour ceux qui nous rejoindraient, astrophysicienne. Vous êtes astrophysicienne et vous êtes l'auteur donc de multiples livres, dont celui-ci cité déjà à cette antenne à de nombreuses reprises, La nouvelle symphonie des étoiles, parue aux éditions Odile Jacob. Alors certainement que Monique Fauché vous a déjà posé ces questions-là. J'avoue que je ne suis pas allé écouter les émissions de Monique Fauché, ni faire de l'archéologie pour les émissions faites avec Jean-Pierre Allot. Mais on va partir du principe que tout le monde n'a pas forcément, ne suit pas peut-être assidûment vos chroniques, et c'est dommage, mais n'a peut-être pas, de grandes connaissances à propos des étoiles. Alors, votre dernier livre, c'est La symphonie des étoiles, on y reviendra. Mais déjà, moi, j'avais une première question assez bête, hein, peut-être pour vous. Mais on lit dans vos interviews, vous rappelez souvent l'âge de l'univers, 13,7 milliards d'années. Pour nous, c'est un peu... ça veut pas dire grand-chose. Vous qui êtes plus habitué, on va dire, à vivre peut-être dans ces échelles de temps, comment vous pourriez nous introduire un peu à cet âge de l'univers? C'est difficile de prendre conscience.
Alors là,
de...
j'ai un geste, mais évidemment, là, la radio, on ne le voit pas, mais je peux quand même vous le décrire. Vous étendez les bras de chaque côté, en croix, avec les index pointés. Et vous dites, le bout de mon index gauche, c'est l'origine de la Terre, la naissance de la Terre. Et le bout de mon index droit, c'est l'époque actuelle. Donc, c'est une échelle de temps. Et là-dessus, vous pouvez fixer l'origine de la vie sur la Terre. L'origine de la vie, c'est-à-dire l'âge des plus anciens fossiles qu'on peut observer. Vous partez du bout de l'index gauche, vous arrivez au coude. C'est le coude. L'époque des dinosaures, pour aller tout de suite au bout, vous partez du bout de l'index gauche, vous devez faire tous vos deux bras vers la droite et vous arrivez au poignet de la main droite. Et les premiers hominidés, c'est-à-dire les premiers êtres vivants qui ont marché sur deux jambes, eh bien, vous êtes au bout de l'ongle de votre index droit. Donc c'est vraiment quand vous connaissez les vraies valeurs, les milliards d'années, les millions d'années, c'est ça. Hein. Et quand la Terre est née, l'univers avait déjà deux fois cet âge-là. Donc voilà, c'est un geste qui frappe bien les gens.
Pardon, l'univers est né. L'univers avait déjà deux fois cet âge-là.
Non, pas quand l'univers est né, quand la Terre est née.
Quand la Terre est née, deux fois cet âge-là.
Voilà, c'est-à-dire que vous étendez les bras comme ça.
Deux fois cet âge.
Une fois. Deux fois.
D'accord.
Depuis le début de l'univers.
Oui, parce que c'était le début de la Terre.
Là,
pas
c'était le début de
la
Terre. D'accord. Donc maintenant, je prends du début de l'univers, deux fois les bras écartés, et là, vous arrivez à la naissance de la Terre, et encore une fois les bras écartés, c'est l'époque actuelle, et nous, on est là depuis très peu de temps. Très, très peu de temps. Nous sommes nouveau-nés, comme disait quelqu'un récemment.
Alors on y reviendra, parce qu'on imagine que ça doit vous rendre quand même un peu philosophe, et d'ailleurs dans votre livre, vous l'êtes pas mal. Parmi les choses aussi donc, que j'ai découvertes en faisant cette émission, alors j'aurais peut-être dû suivre plus assidûment vos chroniques, et je l'aurais découvert, mais il y aurait 200 soleils, en fait, c'est ça, à travers l'univers. C'est ce qu'on trouvait dans une interview, je crois, au journal La Croix,
soleils.
En 2006. Alors, ça a peut-être bougé.
200 soleils. Attendez, je ne vois pas tellement parce qu'en fait, ça dépend... il faut voir de quoi on parle. Et ça, c'est le grand problème.
Il existe des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. On en connaît actuellement presque 200.
Ah, mais ça fait longtemps.
C'était en 2006.
Parce que maintenant, on en connaît des milliers. On en connaît tellement que statistiquement, on a l'impression qu'il y a des milliards de planètes dans notre galaxie.
Et donc des millions.
Mais ça va très vite. Et donc très vite.
Donc des millions de soleils aussi, c'est.
Ah, milliards.
Des milliards de soleils.
Si vous voulez, c'est une question encore une fois de technologie, parce que ces planètes autour des étoiles autres que le Soleil, il faut pouvoir les découvrir. Et pour ça, il faut avoir des bons instruments pour les découvrir. Et on a observé, quand je dis on a, ce sont mes collègues suisses, Michel Mayor, ils ont eu le prix Nobel pour ça. Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont fait ça en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence, c'est-à-dire en France, hein, mais c'est des collègues de Genève. Ils ont trouvé la première en 1995. Donc là, je ne sais pas quelle date c'était, mais là, il y en avait 200.
La première, c'est-à-dire le premier autre soleil, vous voulez dire?
Non, je parle pas, non, c'est-à-dire...
Vous parlez de quoi,
bon, il faut voir, voilà, je vais peut-être préciser les choses. Le Soleil, c'est une étoile. C'est une étoile, et il y a beaucoup d'étoiles comme le Soleil. Alors, faut voir qu'est-ce qu'on appelle des soleils. Qu'est-ce qu'on appelle des jumeaux solaires, parce que nous, on appelle ça des jumeaux solaires. C'est-à-dire que parmi toutes les étoiles, il y en a des grosses, il y en a des petites, et il y en a qu'on observe et qui ressemblent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au Soleil. Mais alors, tout dépend, vous savez, tout ça, c'est nuancé, hein. Tout dépend de ce qu'on appelle... En fait, disons qu'il n'y a aucun autre Soleil, pour dire les choses. Hein. C'est comme il y a plein de chats, mais il n'y a pas un chat qui est identique à un autre chat. Ben, c'est pareil pour les étoiles. Il n'y a pas une étoile identique aux autres étoiles. Elles se ressemblent, c'est tout. Alors, il faut voir jusqu'où on va pour la ressemblance. Mais des étoiles qui ressemblent au Soleil, maintenant, on en connaît énormément. Hein, ce n'est pas seulement 200, c'est beaucoup plus. Et des étoiles qui ont des planètes autour, maintenant, c'est des milliers. Et c'est allé très vite parce que les gens, quand ils ont compris que c'était un sujet très important, ils ont développé des instruments au sol, sur la Terre, Et puis ils ont envoyé des satellites dans l'espace, spécialement pour observer les planètes, pour détecter les planètes autour d'autres étoiles. Et ça va à toute vitesse. Vous avez, si ça intéresse les auditeurs, vous avez un site internet, c'est très facile, c'est exoplanete.eu. Exoplanete, P-L-A-N-E-T, hein, comme si c'était en anglais. Exoplanete.eu. C'est facile, vous allez là, vous voyez au jour le jour le nombre de planètes connues autour des étoiles autres que le Soleil, donc exoplanètes, et vous avez même la possibilité de jouer avec, si vous voulez, au sens de faire des diagrammes, de faire des trucs, enfin c'est un logiciel. Donc ça va très, très, très vite, on en découvre tous les jours.
Alors autre question très basique, hein. Je me demandais en fait jusqu'à quelle distance on arrive à observer. Alors le ciel, vous l'observez jusqu'à quelle distance?
Alors ça dépend de ce qu'on observe. Je veux dire, ça dépend de ce qu'on de la technique. Ça dépend de quel type de lumière, hein, quel type de lumière. Si on observe en le rayonnement visible à l'œil, si on observe l'infrarouge, si on observe le radio, les voyez, tout ça, c'est pas la même distance. Le plus loin qu'on observe, c'est en radioastronomie, c'est-à-dire des longueurs d'onde. Vous savez, la radioastronomie, on observe des ondes qui sont les mêmes genres d'ondes qui vont d'une antenne à l'autre. Vous savez, pour la radio, les gens entendent la radio parce qu'il y a des ondes qui se propagent dans l'espace et qui vont d'une antenne à l'autre. Voilà, c'est ça. Et ça, il y en a plein dans l'espace, des ondes de ce type. Et on a des instruments pour observer ça. Eh bien, le plus lointain qu'on voit, c'est quasiment l'origine de l'univers. On peut dire qu'on voit quasiment le Big Bang, sauf que le mot voir n'est pas bon parce que c'est pas visible à l'œil. Mais on détecte les ondes qui viennent de l'explosion primordiale. Ça, c'est la réalité. Hein.
Donc, on calcule pas en distance, on calcule en fait en années, c'est ça ou...
Alors, c'est-à-dire que je ne peux pas vous donner, si on donne des distances en kilomètres, c'est impossible, parce que ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand, plein de zéros, après, ce n'est pas possible. Donc, à partir du moment où on parle de distance astronomique, en tout cas, enfin, avec le public, nous, on a une autre unité de distance aussi, mais peu importe, on parle d'année-lumière, c'est-à-dire l'année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en un an. Et la lumière voyage à 300 000 km par seconde, donc ben, c'est pas la peine que je mette des 10 à la puissance, je sais pas quoi. C'est très loin, c'est déjà très grand. Alors c'est très très grand, mais la distance de la première étoile, la plus proche de nous, c'est déjà 4,4 années-lumière. Et vous savez, je dis toujours, on parle beaucoup de Thomas Pesquet.
Ce qu'on voit dans le ciel, la plus proche, c'est 4,4 années-lumière.
Voilà. Et le plus lointain qu'on puisse voir, ben c'est de l'ordre du milliard d'années-lumière, vous voyez. Qu'on puisse voir pas à l'œil, hein, attention, avec des instruments appropriés. Mais on parle beaucoup de Thomas Pesquet, on parle beaucoup de la Station Spatiale Internationale, et ça, il y a des raisons. Hein. Moi, j'aime beaucoup de Thomas Pesquet, et il se passe des choses très, très intéressantes. Mais il faut quand même bien penser que la Station Spatiale Internationale est à 400 km du sol. La première étoile est à 4,4 années-lumière. Si on pense que Thomas Pesquet se rapproche des étoiles, c'est la même chose que de monter sur un escabeau pour se rapprocher du Soleil. Bon, voilà, vous dites qu'on a du mal à concevoir les distances, ben ça donne une idée. Les distances sont gigantesques. Tout est gigantesque, absolument gigantesque.
Alors, vous avez une autre expression que vous avez souvent explicitée, mais j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez à nouveau. Nous venons des étoiles. Est-ce que vous pouvez réexpliquer Puis vous avez d'autres expressions. Nous sommes tous fils et filles des étoiles.
Oui, alors ça, c'est aussi la fameuse parole, d'ailleurs, ça ne vient pas de lui, de Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles. En fait, tout ça, c'est parce que et ça, c'est la vérité, la matière, c'est-à-dire les éléments qui forment la matière, cette table, le micro, ma main, tous, il y a des éléments là-dedans, c'est-à-dire ce que j'appelle des éléments, c'est vous avez des molécules, bon, parlons, on peut dire l'ADN, tout le monde connaît l'ADN, une grosse molécule, et l'ADN est fait d'atomes, hein. Eh bien, ces atomes, ils viennent des étoiles. Ces atomes ont été fabriqués, si vous voulez, à l'origine de l'univers. Il y avait de l'hydrogène et puis dans les premiers instants, il s'est fabriqué de l'hélium, un peu de lithium. Et puis c'est tout. Tous les autres éléments, le carbone, l'azote, l'oxygène, tout ce que vous appelez les oligo-éléments, que les gens connaissent dans les boutiques bio et des choses comme ça, tout ça, ça n'existe, enfin, comment dire, tout ça n'a pas été formé sur Terre. tout ça n'a pas été formé dans le soleil. Tout ça était là à l'avance. Et c'était là à l'avance au moment de la formation du soleil et des planètes parce que ça avait déjà été fabriqué par des étoiles. Parce que les étoiles ont des réactions nucléaires au centre. C'est ça qui leur donne leur énergie. Et ces réactions nucléaires, ça transforme aussi la matière. Et ensuite, les étoiles explosent, pas toutes, mais enfin, et rejettent cette matière qui a été transformée, vous voyez ? Et ensuite, il y a d'autres étoiles qui se forment à partir de là.
Et pourquoi est-ce que vous insistez souvent sur cette formule ? Parce qu'en fait, quand on prend conscience de ça, on a quoi ? Un autre regard un peu sur notre existence ?
Non, c'est-à-dire que je parle de cette formule, mais tout de suite pour rebondir après. Donc, si vous voulez, poussière d'étoiles ou dire que nous sommes fils ou etc. des étoiles, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que nous sommes faits d'éléments chimiques qui viennent des étoiles. Mais je rebondis tout de suite après, ça me semble très important. Et je dis en plaisantant, nous sommes beaucoup plus intelligents, beaucoup plus complexes, si vous voulez, qu'une étoile. C'est-à-dire que ce n'est pas l'important pour être quelqu'un. Ce n'est pas seulement les éléments dont on est fait. Mais c'est que ces éléments-là, c'est toute la différence, si vous voulez, entre un tas de briques et un immeuble. Enfin, je plaisante un peu encore là, mais ces éléments-là sont organisés. Et cette organisation, elle est hyper importante. Alors, il y a l'organisation, on ne sait pas, là, on n'est pas encore en train de parler de est-ce qu'il y a autre chose ou pas autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas que des poussières d'étoiles. Et c'est tout ce qui fait ce que nous sommes. Les poussières d'étoiles, c'est notre matériau. Mais il y a autre chose que le matériau. Et donc, c'est pour ça que je rebondis toujours là-dessus, vous voyez. Nous ne sommes pas que des poussières d'étoiles.
Alors, à propos de la nouvelle symphonie des étoiles, je vous avoue que je ne l'ai pas lu in extenso, hein, mais à culpa. Mais tout de même, j'ai cru comprendre aussi que vous aviez un domaine de recherche en fait, relativement récent, alors peut-être ai-je mal compris, qui est en fait de parler comme des bruits en fait, émis oui. par le soleil, c'est ça, comme de
oui.
la musique solaire.
C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de très récent, effectivement. C'est que on a découvert, quand je dis « on », c'est disons la communauté astronomique internationale, hein, sans faire de détails, que beaucoup d'étoiles, et le Soleil en particulier, se comportent, ça c'est très précisément, se comportent comme des caisses de résonance d'instruments de musique. Une caisse de résonance, ben, prenons un violon par exemple, vous avez des cordes, donc vous jouez une note avec un archet sur une corde, si vous n'aviez rien d'autre que la corde, ce ne serait pas très joli et le son serait très faible. Donc ce qui fait l'importance du violon, c'est la caisse de résonance, c'est-à-dire la boîte. Et ça veut dire que les ondes sonores, le son que vous faites avec la corde, l'archet sur la corde, se propage dans cette boîte, cette caisse de résonance. Et ça se réfléchit sur les parois, ça se promène partout à l'intérieur de la boîte. Et quand on a un effet comme ça, ça se réfléchit sur les parois, il y a des ondes. Il y en a beaucoup, beaucoup des ondes. Hein. Il y en a qui s'amplifient mutuellement. Et puis, il y en a d'autres qui s'annihilent mutuellement. Donc, il y a ce sont les harmoniques du son, en fait. Il y en a certaines qui sont amplifiées, d'autres pas, et puis avec des intensités différentes.
Et il se passe la même chose dans le soleil, alors.
C'est ça qui fait le timbre de l'instrument. Alors, il se passe la même chose dans le soleil. Donc, le soleil, c'est une sphère qui n'a pas de parois, mais ça revient au même, parce que dans l'espace, ça tient sous l'effet de son propre poids, et c'est en fait comme s'il y avait une paroi. Et vous avez des ondes sonores qui se déplacent à l'intérieur. Pourquoi ? C'est parce que dans les régions externes du Soleil, c'est un petit peu comme de l'eau qui boue, sauf que ce n'est pas de l'eau, c'est du gaz. Mais vous avez des bulles de matière qui montent vers la surface et qui redescendent, et ça fait du bruit. Donc ça crée des ondes sonores à l'intérieur, et ces ondes sonores, elles se propagent à l'intérieur de la sphère, et elles font exactement ce qui se passe dans un violon, sauf que ce n'est pas la même forme. Et donc vous avez certaines harmoniques qui sont amplifiées, d'autres pas. Et ça fait un timbre. Donc le soleil a un timbre musical et les étoiles, d'autres étoiles ont un timbre musical qui est différent. Et ça, c'est devenu quelque chose de très, très important pour les astronomes.
Pourquoi c'est important ? Parce qu'on les reconnaît quelque part au timbre ?
Parce qu'à partir... Alors, bon, d'abord, je vais peut-être dire quelque chose. C'est que c'est un son qui reste à l'intérieur de l'étoile. Donc en fait, ce son n'est pas transporté. Il n'y a pas d'onde sonore entre l'étoile et nous. Mais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les ondes entre les antennes de radio et télé. Hein, c'est pas la voix qui est transportée. Elle est transformée en ondes électromagnétiques qui vont d'une antenne à l'autre et ensuite retransformées. Ben là, ce qu'on reçoit, c'est par l'étude du rayonnement de l'étoile, on découvre qu'il y a des variations. Et ces variations, bon, là, il a fallu du calcul, il a fallu beaucoup de choses, mais on a découvert, les gens ont découvert que c'était ces ondes sonores qui se réfléchissent dans les régions extérieures et qui font vibrer. Et c'est ça qu'on détecte, vous voyez. Et alors, ces vibrations, donc c'est un timbre, c'est-à-dire il y a des harmoniques. Hein, là, ce sont des harmoniques sphériques. Et ces harmoniques, vous savez, c'est comme... bon, c'est une histoire, je crois, de Pythagore, où c'est une légende. On met un rideau et puis il y a deux instruments qui jouent une note et on peut reconnaître l'instrument. Entre une flûte et un violon, par exemple, la même note, vous pouvez reconnaître. Hein. C'est parce que le timbre est différent, les harmoniques sont différentes. Et là, à partir des harmoniques, de tout l'ensemble des harmoniques d'une étoile, vous pouvez reconstituer comment l'étoile est faite à l'intérieur. La température, la densité, la pression, la composition, etc. Et c'est un outil extraordinaire pour les astronomes. Et alors moi, comme je suis musicienne, eh ben, j'ai fait de la musique à partir de là. En plus de mon travail, c'est autre chose, c'est l'aspect musique.
Alors il y a une dernière chose avant qu'on fasse une deuxième pause sur laquelle je voulais m'arrêter, qui m'a frappé dans les interviews que j'ai lues à votre propos, c'est que vous, probablement, qui voyez l'avancée de la science, X puissance je ne sais pas combien, vous disiez que ça va à une vitesse extraordinaire et qui avait justement l'habitude de réfléchir sur une échelle de temps long, ou de travailler sur une échelle de temps long. Dans la fin de certaines interviews, on vous demande à quoi ça sert d'aller dans l'espace, d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, etc. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que pour vous, ça ne fait pas de doute que, évidemment, on ira sur Mars, et même plus derrière. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, du coup, aller sur Mars et après
Ben moi, c'est ma conviction personnelle que l'être humain... Alors d'abord, l'être humain a besoin de découvrir le monde dans lequel il se trouve. Je dirais que ça commence quand on est bébé. En fait, le bébé, vous lui donnez à manger, à boire, vous le soignez quand il est malade, ça ne lui suffit pas. Il a besoin de toucher, de sentir, de comprendre, de se situer par rapport au monde qui l'entoure. Et quand il peut sortir de son berceau, il va toucher les objets, il va les casser éventuellement. Ce n'est pas parce qu'il a envie de casser, c'est parce qu'il a envie de comprendre comment tout ça est fait. Puis quand il commence à pouvoir parler, il pose des questions. Donc c'est vraiment très 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 ancré dans l'être humain. Et alors c'est du domaine de l'observation. Hein. C'est tout le monde va dire, ça se discute pas. Mais moi, ma conviction, c'est que c'est important pour l'être humain. Ça fait partie de la dignité de l'être humain de toujours aller voir plus loin. Alors je pense qu'on va toujours aller voir plus loin, mais je ne peux pas vous dire où, ni quand, ni etc. Ça, c'est l'avenir et je ne suis pas astrologue ou je ne suis pas voyante. Mais je pense que ça va se passer. On a toujours envie d'aller plus loin et je pense que ça fait partie de l'être humain, quoi.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour, on va dire, comme souvent dans ces émissions de portrait, une partie plus philosophique ou même des questions sur Dieu. Dans votre livre, la nouvelle symphonie des étoiles, d'ailleurs, vous posez un certain nombre de questions. Il y a un chapitre qui s'appelle « La mort, source de vie », on va y revenir. Et vous posez cette question « Sommes-nous faits pour le néant ou pour le tout, pour la mort ou pour la vie ?» C'est d'évidence la plus pressante des questions.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Sylvie Vauclair, La tête dans les étoiles, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église, émission portrait ce matin, donc avec cette chroniqueuse de notre radio. On a de la chance, et qui est donc, si par hasard vous nous rejoignez, astrophysicienne et auteure d'un ouvrage récent parmi tous les ouvrages qu'elle a publié, La nouvelle symphonie des étoiles. C'est une nouvelle parce que vous en aviez déjà publié un qui s'appelait La symphonie des étoiles. Vous venez de me dire pendant la pause, c'était votre premier ouvrage grand public. Et là, vous récidivez, donc ça fait quoi, plus de 20 ans après. Alors souvent, aux invités comme vous avec qui on fait un peu une émission portrait, je leur demande tout simplement pour commencer ce qui fait qu'ils se lèvent le matin. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question, Sylvie Vauclair, à votre avis?
Je peux déjà vous dire que ça m'arrive souvent d'avoir du mal à me lever le matin.
Parce qu'on se couche tard. Mais... pour observer les étoiles ou...
je me couche pas tôt, non, c'est vrai. Je suis du soir, comme disent certaines personnes. Mais j'ai la frite le matin quand même. J'ai du mal. Je me lève pas trop tôt, mais je suis contente de savoir que j'ai des choses à faire. Je suis contente de ce que je fais. Donc, je suis contente de me réveiller, d'être...
Qu'est-ce qui vous vient quand je vous pose cette question? Pourquoi vous levez le matin, en fait? Derrière, c'est la question, pourquoi vous vivez, ou vers quoi vous tendez, ou quel sens à votre vie?
Moi, j'imagine cette question, est-ce que je me lève... Bon, il y a des gens qui ont pas, que j'imagine, pas envie de se lever parce qu'ils pensent que la vie n'est pas très intéressante, ou je sais pas, ou qu'ils sont déprimés. Je sais pas si c'est ça que vous aviez en tête, mais en fait... Je me lève, j'ai l'idée que j'ai plein de choses intéressantes à faire dans la journée, et donc je suis contente de me lever le matin.
Alors, vous vous définissez comme agnostique, on va y venir, mais avant ça, j'avais une autre question. Dans votre livre, il y a vraiment tout un, comme une forme de questionnement philosophique. Moi, je me suis surtout arrêté donc, sur le chapitre 8, « La mort, source de vie », où vous parlez pas mal de la mort. Je trouverais à vous citer. Est-ce à dire, en fait, que d'observer les étoiles, d'avoir le travail qui est le vôtre, ça rend particulièrement philosophe?
Oui, peut-être, il y a d'observer les étoiles, mais il y a de se poser, ça conduit à se poser des questions, mais pas seulement les étoiles, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire toute l'évolution du monde depuis les premiers instants de l'univers, tel qu'on le connaît actuellement, et qui a finalement abouti, mais quand je dis abouti, c'est une façon de parler, parce que je pense pas que nous sommes la finalité du monde, enfin je veux dire, nous sommes en évolution, hein. Mais à ce que nous sommes actuellement sur la Terre, nous faisons partie de tout ça, encore une fois, sans croire forcément que nous ne sommes que ça. Mais ça conduit à des discussions et des réflexions philosophiques, que nous faisons partie d'abord de cette évolution dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un temps qui s'est écoulé avant qu'on existe. Un temps où il s'est passé plein de choses dans l'univers, et puis ces distances qui sont énormes, et puis ce qu'on a quand même maintenant, je pense qu'on ne peut pas réfléchir à sa propre existence, dans quelque domaine que ce soit, de la même manière maintenant qu'on sait que la Terre est une petite planète qui tourne autour d'une étoile et qu'il y a plein de planètes autour d'autres étoiles, qu'à l'époque où on pensait que la Terre était fixe au centre du monde et que les étoiles étaient sur une sphère qui tournait autour de la Terre, comme à l'époque d'Aristote. Et donc il y a vraiment une réflexion, c'est vrai que ça conduit à une réflexion philosophique, ça c'est sûr.
Pourquoi vous vous arrêtez pas mal sur la mort dans votre ouvrage? Vous laissez entendre que l'orgueil suprême de l'homme, c'est d'imaginer en fait pouvoir... ne pas mourir, ou peut-être de ne pas affronter cette question. Et à vous lire, en fait, ça n'est pas si inquiétant. Ma mort ne sera une fin pour personne, sauf pour l'individu qui est moi. Non seulement le monde ne cessera pas de tourner à ma mort, non seulement il ne cessera pas d'évoluer, mais il se trouve que ma mort est une condition nécessaire à ce progrès, dites-vous.
Quand on étudie l'évolution du monde, alors l'évolution du monde, ça peut être... l'évolution, là, on parle de l'évolution du vivant, on parle aussi de l'évolution en plus des êtres conscients. Mais aussi quand on rapporte ça à l'évolution de la matière dans l'univers, qui est plus mon domaine au niveau de l'étude scientifique, on s'aperçoit qu'il y a une évolution de ce qu'on appelle la complexité. C'est-à-dire que dans toutes les étapes, partout de la construction de construction, évolution de l'univers, vous avez des structures qui apparaissent et qui sont faites de structures plus petites. Donc des structures plus petites qui se mettent ensemble, qui font une nouvelle structure qui a des propriétés différentes des propriétés précédentes. Ça, c'est l'évolution de la complexité avec ce qu'on appelle des propriétés émergentes. Alors, il y a beaucoup d'exemples. L'exemple le plus simple, c'est l'eau. On peut faire ça, on fait ça. Enfin, je ne sais pas si on le fait encore maintenant, mais à mon époque, on faisait ça dans les collèges. Que vous prenez de l'hydrogène, de l'oxygène, vous mettez ensemble d'une certaine manière avec une étincelle et ça fait de l'eau. Et l'eau, c'est fait d'oxygène et c'est H2O, c'est fait d'hydrogène et d'oxygène. Mais les propriétés de l'eau n'ont rien à voir avec les propriétés de l'hydrogène et de l'oxygène de départ. Hein, l'oxygène, on le respire et l'eau, on la boit, c'est pas du tout pareil. Le parallèle, c'est que vous, à chaque fois que quelque chose de plus riche se construit, c'est au détriment de ce qu'il y avait avant. Et donc ça, c'est peut-être un peu hardi. Je prends cet exemple-là pour faire comprendre un parallèle. Mais alors, si on parle maintenant de l'évolution du vivant, je suis... Alors là, c'est peut-être
ou de
plus...
la mort, donc, vous êtes persuadé
que
la mort...
Ah ben, attendez, parce que le vivant, ça va avec la mort pour moi. Parce que, justement, je pense que encore une fois, c'est une conviction. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'étudié vraiment, pour moi, scientifiquement. Mais l'humanité évolue. C'est évident que l'humanité évolue quand même. Depuis la naissance de l'humanité jusqu'à maintenant, on évolue et ça continue à évoluer. Et je pense que pour que les choses évoluent, il faut qu'il y ait quelque chose qui disparaisse. Et je pense que si les êtres humains étaient immortels, le monde n'évoluerait plus. Parce que si vous voulez, l'évolution, pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait quelque chose qui disparaisse pour avoir quelque chose de nouveau. Et je pense que la mort de l'individu, je dis ça comme ça, la mort de l'individu est nécessaire à l'évolution de la collectivité. C'est parce que, mais ça c'est peut-être un petit peu théorique, je ne sais pas, mais je pense que moi je ressens un sens de la mort par rapport à l'environnement. Je pense que la mort prend un sens plus profond si on considère ça pas seulement comme la mort de l'individu qui est soi, mais par quelque chose qui dit, donc on est un être vivant à une certaine époque
et
qui doit disparaître
qui
pour que d'autres renaissent, si vous voulez. Je prends souvent comme exemple aussi une petite fleur qui naît dans les détritus, hein. Enfin, c'est pas très sympa ce que je dis là parce qu'il s'agit pas de détritus, mais il s'agit de la disparition de quelque chose pour la renaissance. Et alors, d'ailleurs, là, on est franchement dans la résurrection, on est franchement d'une manière générale. Donc, il y a la résurrection, on peut parler de résurrection.
Attends,
mais
on va y venir.
Oui, mais il y a aussi dans le phénix, vous savez, il y a des mythes chez les anciens Grecs, le mythe du phénix qui disparaît pour renaître plus beau. Hein. Donc moi, je suis dans cette mouvance-là, c'est dans ce sens-là que je dis ça.
Alors, vous dites que vous êtes agnostique, vous n'en parlez pas forcément souvent, mais vous m'avez fait suivre une conférence dans laquelle vous étiez intervenu, je crois que c'était à l'Institut catholique de Toulouse, sur le thème « Les grandes découvertes contemporaines remettent-elles en cause la pensée humaine et religieuse ?» Vous dites que vous êtes une agnostique du 21e siècle, vous posez la question de « Qui est Dieu ?» Vous positionnez, on va dire, en regard d'une définition que donne André Comte-Sponville. En tout cas, c'est ce que vous m'avez proposé. Je vais la citer en partie. André Comte-Sponville dit la chose suivante, donc ce philosophe relativement grand public. J'entends par Dieu un être éternel, spirituel et transcendant qui aurait consciemment et volontairement créé l'univers. Il est supposé parfait et bienheureux, omniscient et omnipotent, c'est l'être suprême, créateur et incréé, infiniment bon et juste, dont tout dépend et qui ne dépend de rien. Et vous dites que cette définition, ça ne vous va pas. Alors, quelle serait la vôtre ?
Alors, en fait, je pense que... Alors là, je pense qu'une définition, de Dieu, ça ne me va pas. Parce que moi, je me place, moi, toujours dans un cadre de quelque chose qui évolue. Pour moi, c'est fondamental. Et si j'ai une relation personnelle, et je pense que j'en ai, de spiritualité profonde interne, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire Dieu, parce que justement, Dieu représente, comment dire, il y a des définitions de Dieu différentes. Ça, moi, on peut revenir à ce que j'apprenais au catéchisme quand j'étais petit, ce qui était pour moi quand j'étais petite, c'était pour moi une catastrophe parce qu'on apprenait des textes, des définitions qu'il fallait répéter. Peu importe si l'enfant croyait quelque chose, peu importe ce qu'il fallait répéter les définitions. Et moi, j'étais la meilleure au catéchisme et j'avais toujours d'excellentes notes, mais ça signifiait rien de profond. Donc, je ne suis pas d'accord avec une définition ferme et définitive, de toute façon. Je pense que la notion de spiritualité, la notion de divinité, quelque chose qu'on doit ressentir le contact avec la divinité.
Alors vous laissez
et donc, une définition ne me plaît pas, et je pense que les définitions sont dangereuses, parce que si quelqu'un, et c'est le cas d'André Comte-Sponville, d'après ce que j'ai compris, si quelqu'un n'est pas d'accord avec une certaine définition, bon, c'est pas si simple que ça, hein, il est quand même pas aussi schématique, hein, il va quitter. Donc vous passez de quelqu'un qui est super chrétien à quelqu'un qui devient complètement athée. Et moi, je trouve dommage parce que je pense qu'il y a plein d'autres possibilités. Et c'est quand je parle d'agnosticisme, pour moi, c'est un mot qui représente quelque chose de très riche.
Alors, je vous reprends vos mots, pardon, je ne veux pas vous couper l'herbe sous pied, mais je vois le temps qui passe. Vous m'avez dit, donc, je ne dirais pas j'ai la foi, je ne dirais pas je n'ai pas la foi, de même que je ne dirais pas je crois en Dieu, je ne dirais pas je ne crois pas en Dieu, ceci étant posé. Vous dites aussi que pour vous, la définition que vous préférez, c'est que Dieu est amour. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière ça?
Ah oui, mais vous m'avez cité, là, mais j'ai quand même dit que je demanderais de quel Dieu parlez-vous et de quelle foi parlez-vous? Ça, c'est important. Parce que pour moi, c'est pas... Comment dire? Je pense qu'il y a une relation personnelle. Moi, j'ai une foi. Je pense que j'ai une foi, mais je dirais pas j'ai la foi, parce que c'est peut-être pas la même foi exactement que mon voisin. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, j'ai une dernière question pour vous, puisqu'on est donc sur une radio chrétienne. Pour les chrétiens, en fait, Dieu a pris un visage qui est Jésus.
Oui.
Pour vous, Jésus, qui est-il, en fait?
Ça, c'est très difficile de répondre à ça. En tout cas, je vous remercie de poser la question parce que c'est vraiment une recherche, si vous voulez. C'est difficile de répondre à ça en 5 minutes. Parce que pour moi, évidemment, Jésus évidemment a existé. Jésus est un personnage extrêmement important. Je pense que la mort de Jésus est quelque chose d'extraordinaire pour ce que ça a fait. Évoluer et toute la répercussion, la résurrection. Moi, la résurrection, je veux pas choquer, mais je prends ça d'une manière, alors très forte, mais symbolique. Mais ça, il y a une question de discussion sur ce que signifie exactement la résurrection. Mais pour moi, la notion de résurrection est extrêmement importante et c'est à vivre tout le temps. C'est-à-dire que je pense que la création aussi, la création est quelque chose de permanent pour moi, et la résurrection est quelque chose qu'on vit en soi-même tout le temps. Hein. Tout le temps, la mort à soi-même, la mort, si vous voulez, la mort et on revit dans sa vie de tous les jours. On a toujours cette notion de mort à soi-même, et qu'elle est une notion que j'avais eue d'un théologien et qui me semblait extrêmement forte. Donc pour moi, le principe de la résurrection est extrêmement important. Maintenant, Jésus, que signifie exactement Jésus et Dieu? Que signifie? Parce que j'essaye toujours de faire une différence entre ce qui est le fond et, disons, un peu la forme. Et la forme, c'est pour moi certaines interprétations de certaines époques, de certains textes religieux qui perdurent maintenant alors qu'elles devraient évoluer. Donc j'ai vraiment un problème à ce niveau-là. Maintenant, je crois qu'au niveau du fond, je suis pénétré par ça.
J'aurais une dernière question. Sylvie Vauclair, si vous êtes bénévole, donc producteur bénévole depuis des années à la radio pour ces chroniques que vous faites, est-ce dans le fond que vous diriez que vous cherchez Dieu?
On peut dire ça. Je cherche ma relation avec le monde, ma relation avec le cosmos et ma relation avec un être spirituel, s'il est là. Mon souci quand on me demande si je suis en contact avec Dieu et tout ça, c'est vraiment que pour moi, Dieu me ramène à toutes ces définitions que j'ai eues au catéchisme, et ce n'est pas ce Dieu-là. Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, il faut savoir qui est Dieu.
Voilà, vous êtes probablement une chercheuse de Dieu en même temps qu'une chercheuse d'étoiles. Merci Sylvie Vauclair. Je rappelle le titre de votre dernier livre nouvellement paru, La Nouvelle Symphonie des Étoiles, l'humanité face au cosmos, paru aux éditions Odile Jacob. Un grand merci à vous.
Merci.
À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.